Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition de 18h30 TU. Il est également 20h30 à Goma dans l'est de la RDC. Eric Manilakiza avec vous. Voici d'abord les principaux titres. Le M23 et ses alliés rwandais contrôlent ce mercredi la quasi-totalité de Goma, grande ville de l'est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi doit s'adresser à la nation avant la fin de la journée. Les États-Unis ordonnent le départ des employés non essentiels de la RDC. Brussels Airlines suspend ses vols vers Kinshasa jusqu'à jeudi, tandis que des paramilitaires roumains au service de Kinshasa se rendent aux autorités rwandaises, selon Kigali. En Afrique de l'Ouest, le Burkina, le Mali et le Niger quittent officiellement la CEDEAO, mais l'organisation reste ouverte au dialogue. Israël annonce la libération cette semaine de 11 otages retenus à Gaza. Le président Sisi de l'Égypte et le roi de Jordanie affirmaient que les Palestiniens doivent rester sur leur terre. Vous suivrez également l'actualité sportive et l'économie, mais d'abord le journal. Le M23 et les troupes rwandaises contrôlent ce mercredi la quasi-totalité de Goma, grande ville de l'est de la RDC dans le centre de Goma, coincée entre le lac Kivu et la frontière du Rwanda. Les habitants ont recommencé à circuler. Le manque d'eau, d'internet et d'eau courante font partie désormais de ceux qui sont restés à Goma. Nous avons joint tout à l'heure notre correspondant sur place, Fiston Issimwe.
Alors, il est aussi important de dire qu'aujourd'hui, c'est le troisième jour de cette semaine, il n'y a vraiment pas de affrontements dans la ville de Goma. Là, c'est la radio et télévision nationale congolaise, et qui ont pris déjà bien 23, et sans compter le port public de Goma, où la population pouvait prendre le bateau pour se rendre de la province voisine du Sud-Kivu à Bukavu. Il faut noter également que le porte-parole militaire bien 23 nous a certifié aujourd'hui que il a été à l'aéroport international de Goma l'après-midi d'hier mardi. Donc, la situation en ville de Goma est sous contrôle. Toute la ville est sous contrôle du mouvement du 23 mars dit en 23. Et au-delà de ça, il faut spécifier également que les corps de tous les militaires qui ont été abattus dans les arrières des affrontements du lundi, de cette semaine, bien sûr, les corps vivent encore, juste maintenant, les corps sont en même état. Le service n'est pas encore commencé, le service n'est pas encore commencé à enlever tous les corps dans les différentes parties de la ville. Les corps sont vraiment éparpillés dans la ville. La population craint que ces corps ne se décomposent, que la maladie n'attaque que ces populations qui consomment aujourd'hui l'eau du lac Kivu par manque d'eau potable, puisque je rappelle déjà que depuis une semaine déjà, maintenant que la ville est toujours dans le noir, pendant qu'il n'y a pas d'électricité, la ville est dans le noir, conséquent, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de connexion Internet jusqu'à maintenant. La ville est vraiment tout en étant sous contrôle du 1-21.
Les précisions de notre correspondant joint tout à l'heure à Goma, silencieux depuis le début de l'offensive sur Goma. Le président Félix Tshisekedi doit s'adresser à la nation avant la fin de la journée, selon la télévision nationale. Son gouvernement a dénoncé une déclaration de guerre du Rwanda et assuré vouloir éviter le carnage. Les États-Unis ont ordonné le départ de leurs employés non essentiels de la RDC après les manifestations qui ont ciblé des ambassades occidentales pour protester contre les violences dans l'est du pays, a indiqué ce mercredi le département d'État, évoquant les manifestations et l'insécurité générale. La diplomatie américaine a déclaré dans un communiqué qu'il avait ordonné le départ des employés non essentiels du gouvernement américain et de tous les membres de leur famille éligibles. Par ailleurs, la compagnie aérienne Brussels Airlines a décidé de suspendre jusqu'à jeudi, inclus sa desserte de Kinshasa, assurée par un aller et retour quotidien depuis Bruxelles, en raison des tensions dans la capitale de Kinshasa. Mardi, à Kinshasa, des manifestants en colère ont attaqué plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, accusée par les autorités congolaises de leur avoir déclaré la guerre dans l'est du pays, de la France, de la Belgique et des États-Unis, des pays critiqués pour leur inaction dans cette crise. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a jugé ces attaques inacceptables mardi soir. Des dizaines de soldats roumains d'une société militaire privée opérant dans l'est de la RDC ont traversé la frontière avec le Rwanda voisin ce mercredi pour se rendre aux autorités, selon Kigali. Ces combattants font partie des soldats qui avaient été engagés pour combattre aux côtés de l'armée congolaise dans le conflit qui l'oppose depuis des années au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Le ministère de la Défense rwandais a confirmé ce mercredi sur X leur édition, évoquant le nombre de 280 mercenaires roumains en cours d'évacuation dans des bus vers Kigali. En Roumanie, le ministère des Affaires étrangères a fait état de l'évacuation en cours de ses ressortissants, promettant de prendre toutes les mesures pour les mettre hors de danger. En Afrique de l'Ouest, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dirigés par des régimes militaires, quittent officiellement ce mercredi la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, après plus d'une année de fortes tensions diplomatiques. L'organisation a toutefois décidé de rester ouverte au dialogue. Le point avec Alexandrine Rolognon.
L'institution régionale décide de rester ouverte au dialogue, a déclaré Omar Aléo Touré, le président de la commission de la CEDEAO, à l'occasion d'un point de presse à Abuja, la capitale du Nigeria. Il précise également que tous les pays peuvent décider de revenir dans la communauté à n'importe quel moment. La CEDEAO a demandé à ses pays membres, désormais au nombre de 12, de reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenu par les citoyens des pays sortants. Ces derniers devraient pouvoir continuer à jouir jusqu'à nouvel ordre du droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa, conformément au protocole de la CEDEAO en la matière, stipule un communiqué de l'institution. Les échanges de biens et de services entre les pays sortants et les pays membres pourront également se poursuivre selon les règles en vigueur de l'institution.
Alexandrine Rolognon, 20 personnes sont mortes au Soudan du Sud dans le crash d'un avion qui n'a laissé qu'un seul survivant, a déclaré mercredi le ministre de l'Information de l'État de l'Unité. C'est dans le nord. L'avion s'est écrasé près des champs pétroliers peu de temps après avoir décollé pour effectuer un vol de routine de transport de travailleurs vers la capitale Djouba dans le sud. Israël a annoncé ce mercredi que 11 otages retenus dans la bande de Gaza seraient libérés cette semaine, dont 8 demain, jeudi et 3 samedi. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué avoir reçu du mouvement islamiste palestinien la liste des 8 otages tous vivants qui retrouveront la liberté samedi. Peu avant, des responsables du Hamas avaient accusé Israël de retarder l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien, avertissant que cela pourrait compromettre les libérations d'otages. Les autorités israéliennes ont démenti. Le roi Abdallah II de Jordanie a affirmé mercredi que les Palestiniens devaient rester sur leurs terres après que le président américain Donald Trump a évoqué l'idée de transférer les habitants de la bande de Gaza vers la Jordanie. Le roi vers la Jordanie et l'Égypte. Le roi Abdallah a insisté sur leurs droits légitimes soient garantis conformément à la solution de deux États israéliens et palestiniens vivant côte à côte, a indiqué un communiqué du palais royal. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a rejeté ce mercredi l'idée d'un déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza vers l'Égypte et Jordanie, affirmant qu'il ne participerait pas à une telle injustice. Il a affirmé que sa position était partagée par le peuple égyptien. Revenant sur ce conflit dans l'est de la RDC, ce conflit fait réagir la communauté internationale. On va écouter Ginny Niwa.
Le président de la République démocratique du Congo, RDC, ne participera pas à la réunion avec son homologue rwandais Paul Kagame, prévue dans la journée lors d'un sommet extraordinaire de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, au Kenya, pour tenter de dénouer la crise dans l'Est de la RDC. Une responsable de la MONUSCO alerte sur la détérioration de la situation sécuritaire pour les civils et met en garde contre les risques d'attaques sur des bases ethniques alors que d'intenses combats ont laissé les rues jonchées de cadavres à Goma. L'Union africaine, qui s'est réunie d'urgence après une intensification des combats, a exhorté mardi les combattants du M23 à déposer les armes. Le président angolais, João Lourenço, qui dirigeait les derniers efforts de médiation entre les deux pays, déplore l'occupation de la ville de Goma et appelle au retrait immédiat du M23 et des forces de défense rwandaises du territoire congolais dans un communiqué diffusé mercredi.
Jenny Niwa qui nous parlait donc de ce sommet qui n'aura pas lieu entre le président rwandais Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi, un sommet qui était convoqué par le président kenyan William Ruto. Je vous le disais donc tantôt, de nombreuses voix à l'étranger continuent de déplorer les violences qui touchent l'Est de la République démocratique du Congo et d'appeler à la fin des affrontements. Tour d'horizon des réactions internationales avec Jacques Aristide.
Alors qu'une nouvelle tentative diplomatique a échoué ce mercredi avec le refus du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, de prendre part à une réunion virtuelle avec son homologue rwandais, Paul Kagame, la pression internationale s'accroît pour mettre fin à la crise dans la région orientale de la RD Congo. L'Allemagne a mis sur pause des pourparlers avec le Rwanda sur son aide au développement exigeant du pays africain et de ses alliés du M23 qu'ils retirent leurs forces de l'Est congolais. Pékin, par la voix de son ambassadeur Foukang à l'ONU, espère que Kigali entendra les appels à ne plus soutenir le M23.
La Chine exige que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma et des autres zones occupées. La Chine espère que le Rwanda entendra l'appel du pays africain et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire.
Le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, indique avoir parlé à Paul Kagame et appelé à la désescalade, soulignant la nécessité pour le Rwanda et la RDC de retourner d'urgence à la table des négociations.
La vérité est que si nous étions témoins des horreurs d'El Fasher et de Goma sur n'importe quel autre continent ou d'ailleurs, de la violence extrémiste au Sahel et en Somalie, n'importe où ailleurs dans le monde occidental y accorderait beaucoup plus d'attention. En fin de compte, cependant, nous avons besoin d'une solution politique. Nous savons que les rebelles du M23 n'auraient pas pu prendre Goma sans le soutien matériel des forces de défense rwandaises.
Selon l'Elysée, le président français Emmanuel Macron multiplie les contacts pour permettre une désescalade. À Bruxelles, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fermement condamné l'offensive militaire du M23 et des soldats rwandais sur le sol congolais.
Alors que Goma s'apprête à tomber, la France exprime sa solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de son intégrité territoriale. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 soutenu par les forces armées rwandaises qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus et provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes civiles. Les combats doivent cesser et le dialogue doit reprendre. C'est en ce sens que la France s'est exprimée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies.
L'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Angola réclament que le Rwanda retire immédiatement ses forces de la RDC. Le pape François demande également de tout faire pour mettre un terme au combat.
J'exprime mon inquiétude quant à l'aggravation de la situation en matière de sécurité en République démocratique du Congo. J'exhorte toutes les parties au conflit à s'engager en faveur de la cessation des hostilités et pour la sauvegarde des populations civiles de Goma et des autres régions concernées par les opérations militaires. Je suis également avec appréhension ce qui se passe dans la capitale, Kinshasa, en espérant que toutes les formes de violence contre les personnes et leurs biens cesseront dès que possible. Je prie pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité.
Après les manifestations ayant pris pour cible plusieurs ambassades à Kinshasa, les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter la RDC. La Belgique a déconseillé aux siens d'y voyager et la compagnie aérienne Brussels Airlines a annulé sa desserte de la capitale congolaise ce mercredi.
Vous suivez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour l'instant, les dossiers du jour. La France reconnaît sa responsabilité dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971 au Cameroun, avec notamment l'assassinat de certains leaders de l'Union des populations du Cameroun, UPC, parmi lesquels son chef de file, Ruben Niobe. C'est ce que révèle le rapport de la commission Mémoire élaboré par une dizaine de chercheurs français et camerounais. Ce rapport a été remis hier au président Paul Biya de Yaoundé. La correspondance est signée Emmanuel Jultamp.
Le rapport contient plus de 1000 pages après dépouillement de 1100 cartons d'archives, 2300 documents déclassifiés et une centaine d'entretiens réalisés. Karine Ramondi, historienne française, a dirigé l'équipe d'experts français et camerounais, auteur du rapport sur le rôle et l'engagement de la France dans la répression d'un mouvement nationaliste et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971.
À ce titre, nous mettons en lumière l'existence de violences répressives et de massacres, notamment celui d'Équité et de Balessigne, exercés par les autorités coloniales et l'armée française, avant et après l'indépendance, et la mise en place de faux partis cooptés par les autorités françaises, et ce malgré le mandat donné par l'ONU devant permettre une émancipation et le progrès du territoire vers l'autonomie et l'indépendance.
La commission Mémoire France-Cameroun a également officiellement levé un pan de voile sur la mort de 6 leaders indépendantistes camerounais, tous militants de l'Union des populations du Cameroun UPC, parmi lesquels Ruben Niobe est assassiné le 13 septembre 1958 au cours d'une opération dirigée par un capitaine de l'armée française. Karine Ramondi, historienne française.
Les violences multiples et illégales exercées par les troupes coloniales et camerounaises placées sous le commandement d'officiers de l'armée française dans le cadre d'une guerre totale inspirée par la doctrine de la guerre révolutionnaire et qui ont inclus assassinats, emprisonnements arbitraires, déplacements massifs de population et la responsabilité de l'armée française et de l'État français dans la mort et les assassinats de certains leaders de l'UPC. Isaac Niobe Pandjok, Ruben Niobe, Félix Roland Moumier, Paul Momo, Jérémy Ndéléné.
L'historien camerounais Samuel Efoua Mbozo se réjouit de ce que le silence soit enfin brisé sur 26 années troubles de l'histoire au Cameroun.
On avait comme l'impression qu'on avait peur de parler, n'est-ce pas, de cette période, tout simplement parce qu'effectivement, elle était mal connue d'un, et ensuite, elle avait laissé des séquelles, n'est-ce pas, dans les esprits des Camerounais.
C'est au cours d'une visite au Cameroun en juillet 2022 que le président français Emmanuel Macron a annoncé la mise sur pied d'une commission mémoire sur l'action française avant et après la colonisation au Cameroun. Les résultats de cette commission doivent être à présent divulgués, souligne le président du Cameroun, Paul Biya.
Il nous appartient dès à présent d'enseigner et surtout de vulgariser ces travaux méritoires de co-construction entre la France et le Cameroun et d'engager nos futures relations sur des bases saines, dans un esprit dépouillé de malentendus et de suspicions.
Les autorités camerounaises envisagent adopter de nouveaux programmes d'enseignement, l'élévation des lieux de mémoire et encourager la recherche scientifique sur ce pan révélé de l'histoire entre la France et le Cameroun. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Depuis un moment, la Côte d'Ivoire fait face à une fuite de ses produits agricoles vers les pays voisins. Un phénomène nourri et encouragé par des exportateurs qui vendent leurs produits deux fois plus cher qu'en Côte d'Ivoire, selon les autorités. Une véritable perte pour les producteurs ivoiriens. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nomine.
Le 14 janvier dernier, les autorités ivoiriennes ont saisi 4 tonnes de café dans un camion qui était en partance pour Bamako au Mali. Les investigations ont permis d'établir que ce camion exportait les produits de manière frauduleuse et les conducteurs ont été mis aux arrêts. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien.
Les personnes qui s'adonnent à ces activités illicites encourent notamment la confiscation au profit de l'État des objets et produits des infractions, le retrait du passeport, de l'agrément et la suspension du permis de conduire. En outre, il est institué dans chacune des régions frontalières de la Côte d'Ivoire un comité régional de lutte contre la commercialisation et l'exportation illicite de produits agricoles soumis à agrément, présidé par le préfet de région.
Malgré ces mesures prises par l'État ivoirien, le phénomène persiste et continue de prendre de l'ampleur. Selon des spécialistes, 150 000 tonnes à 200 000 tonnes de produits agricoles vont vers les pays voisins, une situation qui irrite les producteurs locaux. Guy Mao, producteur ivoirien.
Nous avons toujours dénoncé cela pour la simple raison que cela impacte notre économie. Vous êtes sans ignorer que notre économie repose sur l'agriculture et c'est avec les revenus des produits agricoles que nous pouvons avoir les routes, les écoles et j'en passe. Et cette situation, de plus en plus, connaît un accroissement au niveau de son impact. Aujourd'hui, nous ne dombrons plus de 200 camions par jour ou bien par jour qui vont dans les pays voisins. Nous encourageons les autorités vraiment à prendre des dispositions pour que cela cesse.
L'exportation illicite des produits agricoles est due notamment à l'écart des prix. Les exportateurs vendent deux fois plus cher leurs marchandises dans les pays voisins qu'en Côte d'Ivoire. Certains producteurs ivoiriens sont complices de cette activité illicite, selon Yves Brahima Kone, président du conseil Café Cacao.
Si le planteur est en complicité avec son client traditionnel, on lui donne un papier, on met 1000 francs dessus, puis il accepte 700 francs. Qui va défendre ça? C'est facile après de se défendre, pour dire, de se plaindre, pour dire on ne paye pas le prix que je veux, que le gouvernement a fixé. Il faut que nous, en tant que planteurs, nous acceptons de refuser le prix que des gens viennent nous proposer qui n'est pas le bon prix.
En 2020, l'État ivoirien a adopté une ordonnance portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite de produits agricoles soumis à agrément. Elle prévoit à cet effet la confiscation et la vente immédiate des produits saisis ainsi que des moyens de transport selon une procédure judiciaire simplifiée. Ange Bijounomeyon pour VOA Afrique, à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Une nouvelle version du drone cargo autonome Windrush Ultra avec deux fois plus de puissance et 50% de charge utile en plus a été choisi par l'ONG Aviation Sans Frontières pour des missions d'aide humanitaire d'urgence en Afrique. Davantage avec Jacques Aristide.
L'Ultra Mark II a une portée allant jusqu'à 1000 km et peut transporter jusqu'à 150 kg de charge utile. L'appareil peut également atteindre jusqu'à 9 heures de vol et atterrir sur pratiquement n'importe quel terrain, s'arrêtant à 150 mètres. Il peut fonctionner de jour comme de nuit, dans le brouillard et avec une surveillance minimale de l'opérateur au sol. Simon Moudérac est le patron de Windracers.
Le Mark II est l'aboutissement des 5 ou 6 dernières années d'efforts et d'expériences des clients réels dans des environnements du monde entier. Ce que vous voyez est donc un drone qui ressemble globalement au précédent, mais avec deux fois plus de puissance, deux fois plus de charge utile, plus de 80 changements qui augmentent sa facilité d'utilisation, sa fiabilité et d'un point de vue extérieur. Le grand changement est évidemment l'empennage en V à l'arrière qui, selon moi, est assez spectaculaire.
L'appareil britannique est aujourd'hui opérationnel en Ukraine, au Royaume-Uni et aux États-Unis, permettant de transporter des charges utiles importantes vers des endroits difficiles d'accès rapidement, en toute sécurité et à moindre coût.
Le drone est conçu pour être transporté dans le monde entier, dans des containers, tout comme à l'arrière d'une camionnette type Luton, là où il doit fonctionner. Nous n'avons pas besoin d'une infrastructure aéroportuaire traditionnelle pour l'exploiter. exploité. Nous en sommes très satisfaits. On peut le transporter dans un champ plat et le sortir de l'arrière d'une camionnette pour l'exploiter avec succès.
L'appareil a été conçu à l'origine pour réduire le coût de l'acheminement de l'aide humanitaire dans les communautés isolées. Il le fera bientôt pour l'ONG française Aviation Sans Frontières, qui prévoit d'intégrer un drone lourd et longue distance dans la chaîne d'approvisionnement de l'aide humanitaire. Benoît Gaborit de l'ONG Aviation Sans Frontières.
The daily job for ISF is going where the others cannot go anymore for the.
Le travail quotidien d'ASF consiste à aller là où les autres ne peuvent plus aller, comme les compagnies aériennes régulières. Et c'est pourquoi nous voulons utiliser le drone pour avoir accès aux populations et parce que le risque pour les travailleurs humanitaires augmente chaque jour. Vous avez des exemples au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Il y a 10 ans, nous pouvions y accéder avec les avions. Mais maintenant, nous utilisons des hélicoptères pour cela. D'autres ONG le font aussi. On laisse le moteur en marche, on atterrit pendant 5 minutes et ensuite on doit repartir parce que la sécurité n'y est pas.
The security is not controlled, is not safe.
Outre l'acheminement de l'aide humanitaire, le drone sera également utilisé pour transporter des systèmes radars pour un centre de recherche norvégien afin de détecter les changements du climat en Antarctique. Wind Racers prévoit de construire un Ultra Mark 2 par jour et de le vendre au prix d'une voiture familiale ou de facturer le chargement tant que service comme toute autre entreprise de logistique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration Trump a ordonné une pause de 3 mois sur la quasi-totalité de l'aide au développement à l'étranger, dans l'attente d'un examen visant à déterminer ce qui s'inscrit dans sa politique de l'Amérique d'abord. Les groupes d'aide et les organismes de défense des droits de l'homme préviennent que cette décision pourrait mettre en danger d'innombrables vies dans le monde. Le reportage d'Anita Powell avec le récit d'Odili Dico.
Les États-Unis ont dépensé un peu moins de 70 milliards de dollars pour l'aide à l'étranger au cours de l'année fiscale 2023, la plupart par le biais de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Les États-Unis sont le plus grand fournisseur d'aide humanitaire au monde et un leader mondial en matière de prévention et de traitement du VIH par le biais du plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida, PEPFAR. Le président Donald Trump a gelé toute l'aide étrangère, à l'exception de l'assistance alimentaire d'urgence, dans le cadre de sa volonté de réaligner la position étrangère des États-Unis sur sa politique America First, l'Amérique d'abord. Le décret suspend les nouvelles obligations et le décaissement des fonds d'aide au développement pendant 90 jours, le temps qu'ils soient examinés. La Maison-Blanche a expliqué les raisons d'une mesure similaire qui suspend toutes les subventions et tous les prêts fédéraux à partir de mardi, bien que la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, n'ait pas précisé quels programmes nationaux étaient mis en cause.
Au cours des 4 dernières années, nous avons vu l'administration Biden dépenser de l'argent comme des marins ivres. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons connu une crise inflationniste dans ce pays. Et il incombe à cette administration de s'assurer, une fois encore, que chaque centime est comptabilisé honnêtement.
La Maison-Blanche n'a pas répondu aux questions de la VOA qui souhaitait obtenir plus de détails sur les programmes d'aide à l'étranger qui seraient touchés. Les groupes humanitaires tirent la sonnette d'alarme au sujet des programmes étrangers dont certains se concentrent sur des questions telles que l'égalité des sexes, le développement des entreprises et surtout la fourniture de médicaments contre le VIH financés par les États-Unis que les responsables de M. Biden ont qualifiés de piliers essentiels des relations de Washington avec les pays en développement. Stéphane Dujarric est le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies.
Le secrétaire général prend note avec inquiétude de l'annonce d'une pause dans l'aide étrangère des États-Unis. Il demande que des exemptions supplémentaires soient envisagées afin de garantir la poursuite des activités humanitaires et de développement essentielles pour les communautés les plus vulnérables à travers le monde. Ses vies et ses moyens de subsistance dépendent de ce soutien.
Le plus grand projet de l'USAID pour l'année fiscale 2023 a fourni 14 milliards de dollars d'assistance non militaire à l'Ukraine. Les organismes des droits de l'homme se félicitent de l'obligation de rendre compte de l'utilisation des fonds des contribuables américains, mais pas de l'interruption de l'aide pendant l'examen.
C'est la fin de cette deuxième édition du Monde Aujourd'hui. Eric Manelakiza a été avec vous. José Morissin a assuré la mise en onde. Vous retrouvez dans quelques instants Jean-Roger Dion qui revient pour les 5 minutes des nouvelles.